Merci Seigneur pour ta présence au travers de Denis. Merci Seigneur pour ta présence dans le groupe de louanges au travers des chants. Que toute la gloire te revienne. Amen. Ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Ça fait du bien de vous voir, de vous revoir. Ça fortifie ma foi. Waouh! Chacun a accroché pendant ses vacances. C'est pas toujours facile les vacances, mais on l'idéalise. Mais ça fait du bien de vous revoir. Vous avez persévéré et je crois que c'est ça que Dieu a mis sur mon cœur, c'est cette foi que je vois en vous. Ben moi, souvent je l'ai pas. Et le fait de vous voir, eh ben, ça encourage ma foi et c'est ça que j'aimerais transmettre ce matin, c'est qu'on s'encourage dans la foi. On a aussi lu le livre des Actes, j'espère que vous l'avez aussi parcouru, que vous avez été encouragé par aussi les messages de Flo. Et puis, dans le livre des Actes, ben, on peut n'être que encouragé aussi par la foi. Et moi, j'ai redécouvert des héros de la foi qui ont vécu un petit peu avant le livre des Actes, bien avant. Et puis, ce matin, j'aimerais vous inviter à faire un petit chemin avec eux. Je suis consciente que ça dépasse tout ce que je peux exprimer de ma bouche. Et je ne sais pas ce que le mot héros déjà invoque pour vous. Un héros. HEROS. Un héros, c'est quoi pour vous? C'est un surhomme? Un surhomme, c'est ça? C'est juste? Ouais, souvent, on se l'imagine comme ça. C'est quelqu'un qui a de la bravoure, c'est quelqu'un qui se dépasse, qui va au-delà de lui-même. Un héros, on le voit un peu comme ça. Et puis, on va juste en voir quelques-uns. Là, si vous pouvez mettre le premier slide des héros qu'on connaît un petit peu. On a tout à gauche, on le connaît peut-être tous. Martin Luther King. Oui. À côté, c'est un héros qui n'a pas vécu, mais qu'on aime bien. Je ne sais pas s'il vous dit quelque chose. Robin des Bois, souvent il est sous forme de fil, il est en renard normalement. C'est moitié mythe, moitié réalité. Ici, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Jeanne d'Arc, une héroïne. Et puis notre équipe nationale qui nous a fait tellement vibrer, ouais, pendant l'Euro. Et ben, quand on n'a plus de héros, on en invente. Et puis, qui connaît Superman? Voilà, des héros que je vais pas passer beaucoup de temps avec eux parce que bien qu'on puisse prendre exemple sur certains passages de leur vie. Mais on va voir des héros qui se trouvent dans le livre des Hébreux, dans l'épître aux Hébreux. Ces héros-là, eh ben, il n'y a pas assez de place là pour que je vous les présente tous. On a Abel qui se trouve oui, pour ceux qui ne voyaient pas les images, Abel se trouve devant le sacrifice. Il a fait le sacrifice de l'agneau. Il reçoit la faveur de Dieu et à côté de lui, il y a son frère Caïn qui est plein de haine, qui est plein de jalousie parce que Dieu n'agrée pas son sacrifice de fruits de la terre, de légumes, de culture. À côté, vous le connaissez, il regarde les étoiles. Abraham qui essaye de compter les étoiles, qui n'y arrive pas. Parce que Dieu lui a dit que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Abraham, toujours, il est avec son couteau levé, il est prêt à sacrifié, a tué son fils bien-aimé, le fils de la promesse. En dessous, on a Noé qui avertit que le jugement va venir, que le déluge va venir, et les gens se fichent de lui. Les gens se moquent. Et derrière lui, il y a cette arche qui continue d'être construite. Noé continue son boulot. Un héros de la foi. Moïse, on le voit debout, au-dessus de tout le peuple d'Israël qui passe à sec la mer Rouge. Un héros de la foi. Et puis une héroïne de la foi, Rahab. Peut-être que tout le monde ne la connaît pas, mais elle a accueilli chez elle, les espions que Josué avait envoyés et elle les a cachés chez elle pour avoir la vie sauve. On reviendra là-dessus. Rahab, une héroïne de la foi. Puis au milieu, j'ai mis moi. Pas moi en tant que moi, mais moi, chacun. Chacun de nous, on est héros de la foi, puis on est appelé à le devenir de toujours plus. Et puis on peut lire maintenant, parce qu'ils sont tous rassemblés. Je vous invite à lire Hébreux 11. Hébreux 11, à partir du verset 4 jusqu'au verset 31, mais on va pas tout lire. Je vais sauter certaines personnes parce que sinon c'est vraiment beaucoup. Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Verset 8, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Verset 11, c'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Je ne l'ai pas mise là, mais elle y est. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 17, c'est par la foi qu'Abraham a offert un sacrifice, a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. On voit celui qui est invisible ce matin. C'est juste. Verset 31, on ne va pas oublier Rahab. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Je ne vais pas aller plus loin, mais il y a tous les autres. Je vous laisserai lire la suite. Par la foi, par la foi, par la foi, par la foi. Qu'est-ce que ces héros provoquent en nous? En tout cas, moi, quand je lisais ce texte, j'avais les épaules qui tombaient souvent. Je me disais, mais non, je ne leur arriverai jamais à la cheville. Ou bien alors l'admiration. Waouh, j'aimerais être comme eux. Ou bien alors, des fois, c'était l'indifférence. De toute façon, ils ont vécu il y a tellement longtemps. Est-ce que ça me concerne? Pas vraiment. Quel lien ça a avec aujourd'hui? Et mon piège à moi, c'était de me fixer sur leurs exploits. Et ça occultait tout le reste. Alors, moi, je crois que ces héros, ils ont quelque chose à nous dire. Et puis, quand je lis allemand, j'ai eu un sursaut comme ça à l'intérieur de moi. Je me suis dit maintenant, je ne veux plus lire machinalement ce passage. Je veux qu'il me parle. Seigneur, parle-moi. Je suis allée en profondeur dans ce passage. Plus je le relisais, plus ces personnages y prenaient vie pour moi, plus ils avaient des choses à me dire et puis je me suis attachée à eux. Donc, ça nous concerne. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont cités à cet endroit-là, ces personnes, ces héros de la foi? Et j'ai vu, il faut revenir en arrière, dans Hébreux 10, 37 à 39. Je vous invite aussi à le lire. Hébreux 10, 37 à 39. Encore un peu, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas, et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. On est dans une époque où on aurait tout pour nous dire, allez, arrête-toi, reviens en arrière. Ou en tout cas, arrête-toi, ou freine. C'est trop dur d'aller en avant. Et je crois que tous ces héros de la foi, il ne faut pas les regarder pour leurs exploits. Il faut vraiment les regarder ce matin comme s'ils pointaient tous leur foi en direction de nous, de notre époque, et puis de ce retour de Jésus. De ce retour de Jésus, on a besoin de voir la foi de ces héros, pas seulement de la voir, mais de la comprendre, pour pouvoir hâter le retour de Jésus, pour pouvoir être prêt quand il sera là. Alors, Jésus, c'est le chef, c'est le consommateur de notre foi. Et puis ce mot consommateur, il m'a souvent posé problème. Quand j'entendais consommateur, je voyais une grande surface, je voyais un magasin. Et puis je suis allée voir un petit peu ce que ça voulait dire. Pour le mot chef, dans la Bible anglaise, on peut lire qu'il est l'auteur de notre foi, Jésus. Et l'auteur, c'est celui qui donne naissance, c'est celui qui écrit. Donc si il est l'auteur de notre foi, sans l'auteur, nous, on ne peut pas produire ou bien fabriquer quoi que ce soit comme foi qui tienne la route. Mais si il nous dit pas, Jésus, tiens, voilà la foi, je te la donne, débrouille-toi avec. Non, il est celui qui a choisi de vivre sa vie sur terre, sur la corde raide tous les jours, entre est-ce que je choisis de jouir de ma vie, de mon statut de fils de Dieu, ou est-ce que je veux vivre malgré tout dans la foi à mon Père. Donc la foi qu'il nous transmet, elle est éprouvée. Elle va tenir la route jusqu'au bout. Puis ça, c'est un immense encouragement pour nous. Elle va tenir la route jusqu'au retour du Christ. Et d'ailleurs, dans cet épître, on lit qu'ils sont tous morts dans la foi. Ils sont tous morts dans la foi. Donc, Christ, il a été éprouvé à la croix de Golgotha dans sa foi. Il a passé au creuset du feu. Et puis, ce mot consommateur, j'ai trouvé que la traduction, c'était teleiotes. Je ne peux plus vous dire si c'est de l'hébreu ou du grec. Mais c'est celui qui, premièrement, c'est celui qui achève, qui perfectionne. Deuxièmement, c'est celui qui a élevé à la perfection dans sa propre personne et qui est ainsi le meilleur exemple de foi. Waouh! Et troisièmement, celui qui a été trouvé parfait. Alors, quand on parle de foi, moi je crois que c'est important de vérifier, puis c'est un bon test de vérifier le fondement de ma foi. C'est quoi le fondement de ma foi? C'est pas toujours facile hein, de discerner si, quand j'ai l'impression d'avoir la foi, ou quand je dis j'ai la foi, si c'est de la motivation, une super motivation, si c'est du zèle, Ah, j'ai envie aujourd'hui, j'ai envie de faire quelque chose pour Dieu. Si c'est de la confiance en soi, là, wow, je me sens gonflée à bloc, ça va aller. Ou si c'est du m'as-tu vu? J'ai envie de. Puis ça m'a touchée d'entendre le message de Florence il y a 15 jours, je crois, où elle a parlé de Saphira qui, quelque part, voulait montrer quelque chose. Pour montrer, elle a triché. Mais la foi, c'est d'abord une personne. Et puis, la foi, c'est d'abord la place que j'accorde à cette personne dans ma vie. Ma foi repose sur Christ. Et la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de la parole. Alors, qu'est-ce que je choisis d'entendre? À quoi je prête attention? Pour ceux qui pourraient penser que ces héros de la foi qu'on a vus, ben, c'est un petit peu plus facile pour eux de vivre leur foi, d'être testés dans leur foi, parce que voilà, ils avaient des circonstances, plus facile, ils avaient du temps, il n'y avait pas tout le stress qu'il y a maintenant, ils avaient le temps de s'adresser à Dieu. Est-ce que vraiment c'était le cas? On va juste voir. Abel, c'était le cadet, c'était celui qui vient après, le deuxième de la fratrie, celui qui a des fois un petit peu... Il vient après, quoi. Dans l'ombre de son grand frère. Et puis, quand j'ai regardé ce que signifiait son prénom, Abel, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire buée, buée, vapeur. On souffle sur une vitre, ça fait de la buée, puis pff, ça s'efface. C'est pas très important, la buée. Abraham, c'était quoi son contexte? D'une famille toute simple, hyper idolâtre, une famille ordinaire, il était issu d'une famille ordinaire. Moïse, en situation d'échec total, on oublie des fois que Moïse a été un meurtrier, en fuite, essayant de se faire oublier. Noé d'abord, Noé, partout autour de lui, la corruption, la violence. Rahab, prostituée, tous les jours, elle marchandait son corps, tous les jours, pour gagner sa vie. Alors, j'ai essayé d'imaginer ce qu'était leur vie. Ce que je vais vous dire là, c'est le fruit de mon imagination. C'est peut-être pas tout juste. Est-ce que c'était facile pour eux? Non, c'était pas facile. Est-ce qu'ils n'étaient pas tentés comme nous de prêter l'oreille, d'entendre des autres choses? Il y avait tellement d'autres choses qui se disaient autour d'eux. Est-ce que c'était facile de se raccrocher à la parole qu'ils avaient entendue? Ils n'avaient pas cette parole-là devant les yeux tous les jours. Oui, Moïse, il entendait Dieu, il voyait Dieu tous les jours, mais... Il y a eu des longs silences. Comment est-ce qu'ils géraient ces longs silences de Dieu? Est-ce qu'ils n'étaient pas confrontés à la peur quotidienne, à la peur de manquer, à la peur du passé. Hein, Abraham, il était mais paralysé par la peur, il a cherché des combines. Il a fait passer sa femme pour sa sœur. Il a pris des raccourcis. Et comment c'était, je me demandais, pour lui, est-ce que, comment il a géré le retour à Dieu après ses combines? Comment il a géré le fait de se dire, mais Dieu, il m'aime encore. Ce Dieu tout-puissant, il veut continuer avec moi. Est-ce qu'ils n'étaient pas parfois confrontés à la solitude? La Bible, elle ne mentionne pas qu'ils avaient des amis forcément, en tout cas pas tous. Comment ils géraient la solitude? Moi, tous les matins, je les imagine se dire tous les matins, envers et contre tout, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Noé, tous les matins, il reprend son marteau, ses clous, et repart et continue la construction. Et il dit, Dieu m'a dit. Et il tient le coup. Tous, ils ont réalisé la sainteté de Dieu. Tous, ils ont réalisé la sainteté de Dieu. Tous, ils ont offert des sacrifices. Tous, ils ont pigé que sans le sang versé, ils ne pouvaient pas continuer. Ce matin, on a parlé ou on a chanté l'autel. Ils ont offert un autel. Ils ont dressé un autel. Et ils ont été d'accord de donner leur vie. Ils ont obéi sans aucune garantie que leur foi allait leur éviter la souffrance, sans aucune garantie. On peut voir, Abel, il a obéi, mais il est mort. Mais son sang, il nous parle encore. Abraham, il a obéi. Il n'a pas pu voir la bénédiction de Dieu sur la descendance d'Isaac. Il est mort avant. Mais Abraham, c'est le père des croyants. Et le Messie, il est né de sa descendance. Moïse, il a obéi, mais il n'a pas pu voir le pays promis. Mais la Bible dit qu'il était l'ami de Dieu. Noé, il a obéi. La Bible, elle dit qu'il s'est conformé à tout ce que l'Éternel lui a dit. Mais il n'a pu sauver. Est-ce que tout le monde a été sauvé? Est-ce qu'une partie des gens a été sauvée? Il a pu sauver que sa famille. On s'imagine la frustration que ça a dû être par rapport à sa persévérance. Aucune garantie. Mais Dieu a établi son alliance avec lui et avec sa descendance. Il y a toujours ce « mais » de Dieu. Et avec ce « mais » de Dieu, j'aimerais aussi vous encourager. Et Rahab, elle a obéi à un Dieu qu'elle ne connaissait pas encore. Elle avait entendu parler. Et elle a accueilli les espions avec bienveillance. Puis en réfléchissant à sa vie, je me disais, mais ce mot « bienveillance » pour une prostituée, ça ne devait pas être son quotidien d'accueillir ses clients avec bienveillance. C'était un job. Et là, sa foi, elle se manifeste par la bienveillance. Elle a saisi la grâce. Elle a, pas que pour elle, mais elle a réalisé que son salut, il était là, dans l'accueil de ses espions. Et puis, elle n'a pas saisi la grâce que pour elle, elle l'a saisie aussi pour sa famille. Moi, je me disais, mais quel lien elle avait avec sa famille, une prostituée? Et elle a, par la foi, elle a transformé la honte qui était attachée à son statut, en grâce. C'est encourageant, non? Mais depuis, son nom, il est plus cité, il est plus associé à la prostitution. Son nom, il se trouve, vous savez où? Dans la généalogie de Jésus, de Jésus-Christ. Alors Dieu, il a vu cet attachement de chacun de ces héros de la foi, il a vu cet attachement à lui. Dieu, il a vu l'attachement à la promesse reçue. Pas seulement la lecture dans la Bible, mais l'attachement. Puis l'attachement, ça vient du cœur, c'était une attitude de cœur. Moi, je veux rester attachée à ce Dieu vivant, même si je comprends rien. Souvent, ils ont dû se dire, mais comment un Dieu si grand peut me confier ce qu'il me demande là, mais comment? Et c'est comme ça que leur amour a grandi, en réalisant que c'était pas un Dieu comme les autres, c'était un Dieu qui les aimait, qui les rencontrait dans leur détresse, dans leur peur, dans leurs questions. Ils ont réalisé, ils ont cru que ce Dieu-là, il se trompe pas. Ce Dieu-là, il va jusqu'au bout avec eux. Ce Dieu-là, il veut inscrire son histoire dans leur vie. Est-ce que vous croyez que Dieu, il veut inscrire son histoire dans votre vie? Alors, quand on lit le juste vivra par la foi, moi je suis tentée des fois de lui dire, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est pas droit le moment, Seigneur. Attends un petit coup, là je le sens pas. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de reprendre des forces, j'ai besoin d'avoir la foi pour avoir la foi. C'est pas le moment. Ça sera mieux dimanche prochain. Ça sera mieux surtout, attends, pendant la louange. Ça sera mieux à la fin de la louange. Là, ça va aller. Tu pourras, ma foi, elle pourra passer au creuset. C'est tout bon. Ça vous arrive pas, hein, d'avoir ces moments où on se sent vraiment gonflé à bloc. Plein de fois. Mais on aimerait bien y rester. Mais ouais, c'est des temps bénis. Mais le problème, c'est que les moments où notre foi, elle va être testée, ben, c'est pas nous qui les choisissons. C'est pas nous qui les choisissons. Est-ce que c'est pas justement ces moments du quotidien où, voilà, le culte est fini, c'était magnifique. On était plein de foi, puis on retourne à la maison. Puis là, on se retrouve devant le mur de notre cuisine avec notre assiette, on mange tout seul. Et là, notre foi, elle est testée. Ou on retrouve notre conjoint dans la voiture qui n'est pas forcément croyant, à qui on ne peut pas rien partager. Ou bien quand on a bétonné notre timing, notre programme de la journée parce qu'on est super stressé, parce qu'on n'a que le samedi pour faire tout ça. Puis tout à coup, ding-dong, il y a quelqu'un qui vient nous voir. Pas tout le temps. Aïe, 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 ça paraît tout simple. Peut-être que vous allez me dire, c'est des exemples tout petits. Oui, il y a des défis bien plus grands. Il y a la maladie. Il y a le travail qui n'est pas là, qui manque. Il y a l'incertitude, il y a des relations difficiles. Mais devant toutes ces petites choses, vous êtes d'accord, on est face à un choix. On est vraiment toujours face à un choix. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois me faire violence, hein? Est-ce que je vais exprimer ma reconnaissance à Dieu, même si j'ai envie de ronchonner? Est-ce que je vais lire à haute voix, des fois quand je suis là le matin devant ma Bible avant d'aller au travail, il y a le sommeil qui me rattrape, et je sens mes paupières qui se ferment. Et c'est, je dois me faire violence pour lire à haute voix les versets de ma Bible, pour ne pas m'endormir. Puis c'est là que tout à coup j'entends la voix de Dieu. Est-ce que on peut dire à Dieu, est-ce qu'on peut dire Dieu m'a dit quand on se sent vaciller, quand les forces elles sont juste plus là, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Et je crois que c'est quelque chose qu'on a commencé de faire pendant les soirées jeûne et prière. Dieu m'a dit, Seigneur, ta parole, elle dit ça. Et puis on lit le verset. C'est tellement, ça donne vie à notre foi. Est-ce que, quand quelque chose vous réussit, est-ce que vous lui donnez gloire? Ça, les gloires. Yes, ça, c'était chouette. Je l'ai vécu comme je te l'ai demandé, Seigneur. Je te rends gloire pour tout ça. Attitude de foi. Est-ce que je cherche la pensée du Saint-Esprit avant d'ouvrir ma bouche, avant de faire un choix? Oh, ça, c'est le défi, un des défis le plus important pour moi. Puis c'est chaque jour à remettre sur la table. C'est vraiment m'adresser à Dieu, demander le conseil du Saint-Esprit avant d'ouvrir ma bouche, avant de vivre mon retour au travail, avant de m'adresser à mon conjoint, avant de m'adresser à mes amis. Est-ce que je laisse la place au Saint-Esprit? C'est dur. On est complètement dans la spontanéité. Mais je crois qu'on peut faire des progrès. Puis moi, je vous encourage à tester, à laisser passer votre foi dans le creuset, dans ces toutes petites choses. Parce que ça donne du courage et ça marche. Du moment que dans les toutes petites choses, Dieu vient mettre sa seigneurie. Qu'est-ce que c'est plus facile? Et qu'est-ce qu'on a envie après de le vivre à l'extérieur? André disait que notre foi, elle est souvent cantonnée dans les quatre murs de l'Église. C'est vrai, on a de la peine à avoir la même foi dans l'Église qu'à l'extérieur. Mais je nous mets au défi, commencez par les petites choses. Et ça va couler à l'extérieur. Parce que vous aurez eu tellement de joie de vivre la victoire du Seigneur dans les petites choses que vous allez vouloir continuer d'ouvrir l'horizon. Alors j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager ce matin. Jésus, il voit ta foi. Amen. Jésus, il la considère. Il s'y intéresse. Il s'y intéresse. Elle a de l'importance pour lui. Elle lui est agréable. Et il veut être glorifié par ta foi. C'est ta foi qui le glorifie. Elle a tellement pris à ses yeux notre foi qu'il met des signaux, des poteaux indicateurs partout, le Seigneur. Et en particulier, des panneaux de danger. Et dans les épîtres à Timothée, il met des panneaux danger, danger partout. Pourquoi? Parce que notre foi, elle peut être en danger. Il nous avertit que notre foi, eh ben, on peut l'abandonner. On peut l'abandonner. Mais c'est pas un abandon d'un jour à l'autre, c'est tout progressif. On laisse aller. On peut s'égarer de la foi. On peut tranquillement, mais sûrement, commencer d'écouter autre chose que la parole. Je ne dis pas qu'il faut écouter que la parole, mais donner foi à des théories qui passent, des choses qui sont très à la mode. Et petit à petit, un mélange qui se fait et on s'éloigne de la foi. Panneau danger, panneau danger. Gros risque. Et on peut être disqualifié par rapport à la foi. Carrément disqualifié. 2 Timothée 3:8. 2 Timothée 3:8. Je vous le laisse déjà lire pour vous. De même que Jannès et Jambrès se sont opposés à Moïse, de même Ces hommes s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence pervertie et c'est pour ça qu'on demande mardi soir après mardi soir, quand on a les soirées de jeûne et prière, Seigneur, renouvelle mon intelligence parce qu'elle peut se pervertir. Ils ont l'intelligence pervertie et se sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Et là, il y a deux prénoms qui sont cités. Attention, attention, on peut être disqualifié par rapport à la foi. Je crois que Dieu nous aime assez pour nous avertir. Alors, encourageons-nous. Encourageons-nous parce que le Seigneur, il nous dit, la foi, c'est le fruit de mon esprit. La foi, c'est le fruit de mon esprit. C'est par elle que Christ vit dans notre cœur. Jésus prie pour que ta foi, elle ne disparaisse pas. Tu n'es pas tout seul à te débattre. Jésus vient au secours de notre foi. Et puis, j'ai lu dans Matthieu 18, il y a un moment donné où les disciples, ils disent à Jésus, « Augmente notre foi. » Est-ce que vous savez suite à quoi il lui demande cela? Ça vous rappelle quelque chose? Matthieu 18, 21. Vous pourrez le lire à la maison, mais en fait, ils viennent de faire une multiplication super difficile dans leur tête. Ils viennent de compter que 70 fois 7 fois, ben ça fait quand même, vous allez m'aider, ça fait 490 fois, c'est juste, ça fait 490 fois. Et ça parlait de quoi, ces 70 fois 7 fois? Ça parlait du pardon. Ça parlait du pardon, c'est le nombre exact de fois qu'ils ont à pardonner à leur prochain. Et là, les disciples qui sont là, non, non, là non, Seigneur, mais augmente notre foi. Donc vous voyez la foi comme elle rentre dans les relations humaines. Des fois, on a une idée vague comme ça des exploits à accomplir pour Dieu, mais Dieu, il nous dit, rentre dans tes relations quotidiennes. Et là, 7 fois, 70 fois, ben, Seigneur, augmente notre foi. Et le Seigneur vient au secours, et le Seigneur vient à mon secours. Et c'est là que des chemins s'ouvrent, et c'est là qu'il y a des mers rouges qui se séparent. Il y a des chemins qui s'ouvrent pour nous, pour être à l'abri de l'ennemi, pour être à l'abri du pharaon qui veut nous faire rester dans quelque chose de tout petit. Il y a le pays promis qui est là. Mais encourageons-nous à exercer notre foi dans les petites choses. Amen. Amen. Peut-être que dans le silence, on peut simplement les yeux fermés, comme vous voulez, soit en vous levant, soit avec une main levée. S'il y a un des exemples que j'ai cités qui vous parle où vous voudriez passer dans vous laisser passer dans ce creuset de la foi, une petite chose de la vie quotidienne, vous savez que chaque fois vous y allez avec vos propres forces. S'il y a quelque chose qui vient sur votre cœur, manifestez-le physiquement pendant un tout petit moment de silence. Moi, je vais regarder personne, j'ai assez de chats à battre pour moi-même. Seigneur, merci parce que tu sais, tu vois, tu connais et tu... La foi de ceux qui maintenant se sont levés ou qui ont manifesté ce désir d'aller de l'avant, ce désir de passer au creuset, peut-être dans des petites choses, eh bien leur foi, elle t'est agréable. Je te remercie et je te demande de bénir chaque personne. Merci Seigneur, d'encourager, de venir au secours. Seigneur, on sait que tu pries pour nous ce matin. Merci. Merci parce que ces choses-là où on y va avec notre propre force, elles ne seront plus là la semaine prochaine. Elles seront encore là, mais tu seras là. Et tu vas transformer. Et tu vas amener ta présence, ton Esprit Saint, qui va nous aider à continuer de te suivre. Merci Seigneur. Amen.